Vous écoutez
RMC.
RMC. Vu le fait que les joueurs soient les 6 meilleurs joueurs, enfin en tout cas les 3 dans le groupe, les 3 joueurs importants soient partis,
ils avaient besoin d'entendre une nouvelle Ouais, mais bon, je veux pas revenir sur ce qui s'est passé avant.
Jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Brébois.
Damien Périnel est là, Daniel Riolo est là, Simon Dutin également, bien sûr, jusqu'à minuit. Oui, je parlais du quiz il y a quelques instants, inscrivez-vous, on a un magnifique ballon de la Ligue 1 à vous faire gagner. Et attention, c'est pas le mauvais répliqué à 40 balles, hein. C'est le vrai, avec les petits picots et tout, voilà, le vrai quoi.
De toute façon, on s'est jamais foutu de la gueule des gens.
En même temps, un ballon de Ligue 1, ça va devenir collector assez vite. Hein. Donc profitez-en.
Surtout celui de l'année 2019-2020.
Exactement, c'est tout à l'heure dans l'after. Dans le quiz, vous nous appelez au 32-16 pour vous inscrire. Polo Breitner nous rejoint, évidemment, pour faire le point sur ce qui se passe en Allemagne. Salut Polo.
Bonsoir mon cher Gilbert, bonsoir tout le monde.
Salut Polo. Salut, Polo.
Alors, raconte-nous un peu ce qui s'est passé aujourd'hui en Allemagne. Décision donc assez tardive, hein, finalement, c'est dernier championnat européen à avoir décidé d'arrêter.
Si tu le permets mon cher Gilbert, c'est juste lunaire ce qui se passe en Allemagne,
ouais.
Qui montre l'inorganisation complète du foot allemand, et je vais essayer de te résumer en deux minutes.
Pour une fois que les Allemands ne sont pas organisés.
Ah mais justement, je pense que par rapport... Oui mais nous, si tu veux mon cher Gilbert, quand on était à l'école avec Daniel, enfin tu sais, notre génération, j'ai envie des années 70, et la façon dont on nous parlait de l'Allemagne, je pense qu'il va falloir déconstruire tout ce qu'on nous a mis dans la tête durant les années 70. Et je voudrais juste essayer de, si tu veux, je vais vous parler évidemment de la journée d'aujourd'hui, mais juste ce qui s'est passé rapidement toute cette semaine pour vous montrer le côté complètement lunaire de la situation allemande. Le week-end dernier, si tu veux, t'as Christian Seifer, donc le directeur général de la Ligue, qui représente donc la Bundesliga et la seconde division, qui annonce qu'il n'y avait aucune raison objective de ne pas continuer les compétitions avec ou sans spectateurs et qu'on devait absolument respecter le calendrier. En début de semaine, t'as le président de l'Union de Berlin, Sinclair, qui annonce que le match Union-Bayern, eh ben, finalement, ce sera devant les supporters. Le lendemain, la ville de Bayern, parce que la ville de Berlin, pardon, parce que vous savez que c'est un pays fédéraliste, et ben décide finalement qu'on aura le huis clos. Ensuite, partout en Allemagne, on a des informations qui concernent des joueurs pros qui ont contracté le virus. Il y a des rumeurs partout, y compris le coach de Paderborn qui finalement est testé négativement, mais il y a un de ces joueurs qui est chopé. Il y en a un autre à Nuremberg, etc., etc. Ce matin, pour en revenir à la journée, la DFL donc annonce, donc la Ligue, hein, je rappelle, annonce qu'il y aura une pause après la 26e journée. Donc on aura toujours ce week-end devait théoriquement se jouer et qu'on fera une pause jusqu'au 2 avril. Les joueurs commencent à se plaindre et à envoyer des tweets, etc. Thiago Alcantara, notamment le joueur du Bayern Munich, tweet sur la nécessité absolue d'arrêter les matchs. On a le gardien de l'Union de Berlin, Rafael Gikiewicz, qui estime qu'on a traité les joueurs comme des singes dans un cirque. En gros, on s'est occupé des spectateurs, on a confiné qui il fallait confiner, personne dans les stades, mais personne s'est occupé des joueurs et que eux avaient extrêmement peur parce qu'ils discutaient entre eux, évidemment, et qu'il n'y a pas de raison qu'ils ne pouvaient pas attraper le virus non plus. On apprend ensuite que la ville libre de Brême décide d'annuler la rencontre entre le Werder et l'Everkusen. Donc vous voyez qu'on n'a aucune harmonisation décisionnelle sur l'ensemble du
pays. Mais ça, c'est ça, en fait, juste, Polo, ça c'est en fait ouais. La conséquence de la décentralisation allemande.
Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que...
Nous, en France, on se plaint tout le temps que c'est trop centralisé.
Ouais. Et là, tu as le modèle fédéral de l'autre côté, tu vois ce que c'est.
Bon,
et
qui selon moi, a plus d'avantages que d'inconvénients, mais enfin bon, ça c'est un autre sujet. Mais...
Ça dépend, quand tu es dans des logiques comme ça, ou quand tu es dans des logiques de terrorisme, par exemple, où tu as les régions qui ne se parlent pas entre elles, je peux t'assurer que c'est mieux, c'est beaucoup plus important, c'est beaucoup plus intéressant, le système centralisé à la française. Je finis juste, Karl-Heinz Rummenigge, qui évidemment a toujours des forçats dans les poches, prend position et il estime qu'on doit absolument continuer le championnat, et je le cite, qu'à la fin c'est une question d'argent et que des centaines de millions d'euros vont être jetés au feu. Donc lui, la santé en gros des joueurs, il a strictement rien à faire. Dans le même temps, le journal Titeur fait un édito sanglant en disant qu'il faut absolument arrêter la Bundesliga, mais qu'en plus il faut arrêter tout de suite, il faut pas participer à l'Euro 2020, il faut l'annuler complètement. À 16h, enfin, la DFL, donc la Ligue, prend position en annulant tout simplement cette 26e journée qu'on se retrouvera peut-être au mois d'avril. Et puis, je voudrais juste rajouter deux petites informations. Une conférence de presse du coach de Fribourg qui résume un peu, Christian Streich, qui résume à peu près tout ce qui s'est passé en Allemagne. Mais c'est quoi ce pays où chacun donne son avis sur des choses critiques, sur des présidents qui décident d'avoir un public, sur d'autres qui décident on continue ou on ne continue pas, etc. Et je finis avec Aki Watzke qui est estiment que le football pro en Allemagne va vivre la plus grande crise de son histoire. Donc c'est pas terrible en ce moment ce qui se passe. Ce qui est sûr, c'est que on va dire que l'Allemagne s'est rangée à la décision faite dans les autres pays européens, mais au niveau de l'organisation, c'est un bordel monstre. Excusez-moi d'être vulgaire.
Bon, en fait, tout ce que tu nous racontes explique pourquoi les Allemands ont été les derniers à décider, en fait.
Ah, moi je pense, oui. Alors déjà, il y a l'histoire de gros sous. Faut pas le quand tu vois les déclarations de Rummenigge quand même, ou celle de Vatzke qui dit on aurait peut-être, tu vois, je vous ai résumé les choses, hein, on aurait peut-être pu faire les choses un petit peu différentes. Ce qui est sûr, c'est que le football professionnel va énormément souffrir, mais que la santé de la population est évidemment prioritaire par rapport aux sportifs. Je rappelle aussi que la chancelière Madame Merkel avait fait une déclaration qui est pas passée neutre en Allemagne, que 60 à 70% des Allemands vont être infectés par le coronavirus. Je lui laisse l'entière responsabilité évidemment de ce chiffre, mais si tu veux, ça rentre pas dans les oreilles d'un sourd quand on te sort ce genre de phrase.
Différence quand même entre l'Allemagne et les autres pays, c'est que c'est en Allemagne qu'on a le plus entendu les joueurs, en fait. On n'a même pas encore vu un joueur sortir du bois en disant publiquement, hein, s'entend. Hein, on sait qu'ils l'ont fait pour certains auprès de l'UNFP. Mais en France,
est-ce qu'il y avait vraiment l'utilité ? Parce qu'en soi, la décision, elle a été prise assez rapidement.
La décision
du président de la République,
le tweet de Thiago Alcantara, où il y a Jérôme Boateng aussi qui a estimé qu'enfin on avait pris les bonnes décisions, où je pense encore une fois quelqu'un qui est moins connu comme le gardien de l'Union de Berlin, qui dit très clairement en fait qu'ils ont été traités comme des bestiaux, quoi, et qu'il fallait absolument assurer le spectacle au détriment de la sécurité des joueurs aussi, hein. Encore une fois, quand tu vois ce que déclare Thiago Alcantara et quand tu vois ce que déclare son président Karl-Heinz Rummenigge, c'est juste deux visions opposées du football et de la décision des décisions qu'il fallait prendre.
C'est ça, parce qu'il va y avoir des petits règlements de compte pour le c'est Simon, salut. Au Bayern, effectivement, Alcantara, c'est très fort ce qu'il dit, parce que la DFL, si j'avais bien compris, avait dit on maintient les matchs à huis clos ce week-end sous réserve d'avis contraire des autorités sanitaires. Donc, comprendre les autorités sanitaires locales décentralisées. Thiago Alcantara, lui, il a dit cette position, elle est folle et irresponsable. Et derrière, il a Rummenigge qui dit ouais, mais attendez les gars, quand même, nous, il faut qu'on gagne un peu d'oseille. Ça va être compliqué les retrouvailles entre ces gens-là.
Oui, mais bon, ils vont se retrouver autour d'une table, ils vont bouffer ensemble. Ça va se calmer. Mais si tu veux, quand Karl-Heinz Rummenigge fait cette déclaration, la presse allemande a dit bah ouais, faut bien se payer des Rolex. Tu vois, c'est un petit peu
ils en ont pas encore.
Oh bah si, mais tu sais, au Bayern, plus il y en a, plus c'est important. Ah, mais en plus, non, mais ce que dit Rummenigge est intéressant, parce que ça nous apprend toujours une chose, qu'on va vivre de toute façon. Et encore une fois, on parle de l'Allemagne, hein, qui est pas le pays le moins bien géré financièrement d'Europe. On va enfin comprendre que le spectacle, quand on dit que le football c'est un spectacle, c'est surtout une économie qui est extrêmement fragile. Donc il va y avoir des impacts énormes sur les clubs de seconde division, des impacts énormes sur les clubs moyens, sur les petits et les moyens, c'est-à-dire ceux en gros qui ont vocation à être en seconde division, en deuxième partie de classement de la Bundesliga. Je parle même pas de la troisième division où il y a quand même plus de 11 000 spectateurs de moyenne, donc c'est pas neutre. Hein, on en parlait, Gilbert, tu sais, sur les recettes guichets, etc. Les impacts vont être énormes. On le verra par exemple si tout cela se calme, on verra ça d'ailleurs cet été dans les transferts, parce que dans certains clubs, les 10 millions qu'ils vont perdre là, ils seront pas là pour l'injecter sur le marché des transferts.
Ça, c'est un sujet, alors c'est peut-être un peu tôt pour le faire.
Ah oui,
mais c'est un sujet ultra intéressant, parce que ce qui se passe là, quoi qu'il arrive, va totalement impacter le mercato, les stratégies des clubs, en dehors des droits télé, hein, totalement décorrélés. Je veux dire, les moyens vont être revus à la baisse. On peut penser que les salaires dans certains championnats vont être revus aussi à la baisse.
Enfin, et t'as les mecs qui sont en contrat jusqu'à fin juin aussi, si les championnats sont prolongés jusqu'à fin juillet ou mi-août.
Il y a 2-3 agents qui doivent...
Ouais. 30 juin, c'est vraiment une date butoir. Ça paraît trop compliqué.
Oui, mais ça pose quand même un problème.
Non, mais, comment tu gères ton contrat en fin de saison? Si tu dois jouer deux mois après la fin juridique de leur contrat,
qu'ils n'iront pas, ils diront pas la 38e le 2 juillet. C'est un truc qui sera impossible.
Okay.
Le 30 juin, c'est une date butoir, justement.
Mais en revanche, pour retrouver un club derrière, pour les joueurs en fin de contrat, transfert, les primes de la signature, là ça va poser des soucis, mais bon, c'est secondaire.
Je voudrais juste rajouter le fait que, quand, évidemment, ils réfléchissent à l'avenir, même si tout ça n'est pas officiel, encore une fois, et qu'ils se murmurent tout de même que l'année prochaine, si le championnat est arrêté définitivement, on va peut-être avoir un championnat à 20 clubs, voire à 22 clubs, c'est-à-dire qu'on garderait, et le titre évidemment n'irait pas au Bayern, c'est-à-dire qu'on aurait les 18 clubs de cette année qui resteraient en Bundesliga, plus 2 ou 4 de la seconde division, et en gros, il n'y aurait pas de relégué.
On n'a pas vu cette situation. Pour les places européennes qui ont
alors, il serait gardé au, alors là, c'est, j'ai adoré quand je me suis penché sur le classement. Tu sais que Leverkusen, son surnom, c'est Neverkusen. Comme par hasard, Neverkusen qui était dans un rush extraordinaire pour aller chercher une qualification en Ligue des Champions, il se retrouve cinquième en ce moment. Donc, ils iront en Europa League. Donc, c'est tout à fait classique.
Mais quoi, la solution privilégiée, c'est on prend le classement tel qu'il est aujourd'hui?
Voilà. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est quand on arrêtera la 25e journée, c'est comme ça que ça se passe. Donc, par exemple, t'as un Schalke qui était à la ramasse.
Oui, mais tu dis c'est comme ça que ça se passe, mais en France, puisqu'on en a débattu avant que tu sois là pour le cas français, mais il n'y a aucun point de règlement qui existe sur cette question, puisque c'est la première fois dans l'histoire que ça arrive. Est-ce que le règlement allemand prévoit ce qui se passe dans ce cas-là?
Non, justement. Donc, ils sont en train de réfléchir à différentes.
Voilà.
Alors, c'est très compliqué parce que, il faut bien comprendre que le championnat allemand, l'histoire du 18 clubs, c'est juste historique, excepté les deux premières années de la création et on n'était pas nés, donc c'était en 1963, les deux premiers classements de la Bundesliga étaient à 16 clubs. On est passé dès 65-66 à 18. Et la seule fois où on est passé à 20 clubs, c'était juste après la réunification, ce qui n'est pas un événement neutre. Donc, si tu veux, si on refait le côté conservateur des Allemands, leur faire comprendre qu'il faut passer à 20 ou 22, oulala, c'est très compliqué pour eux à l'accepter déjà. Et donc, on va essayer de faire quelque chose. Mais si tu passes à 20 clubs, ça veut dire qu'un club comme Hambourg, qui est troisième, ne peut pas monter, donc il fera faire une troisième année en seconde division. Vu les finances du club historique d'Hambourg, ça risque d'être très très compliqué. Au passage, il pourrait aller en justice, puisque lui, il avait théoriquement troisième droit à un barrage, donc c'est contre le 16e de Bundesliga. Donc c'est pour ça qu'on parle de 22 clubs et d'amener même le 4e qui théoriquement n'a pas le droit, donc qui serait Heidenheim. Ça serait aussi pour lui extraordinaire, puisque la première fois qu'il monterait. Et donc tout ça va être décidé, mais on aura en tout cas un calendrier 2020-2021 extrêmement compliqué, en supposant évidemment que tout s'arrange, parce que là c'est des prospectives qu'on fait.
Est-ce qu'en Allemagne, à l'image de la France, il y a déjà un président qui est sorti du bois pour dire moi je veux qu'on fasse comme ça, je pense que, ou alors pour l'instant c'est un peu
il y a eu évidemment Rummenigge ou Watzke qui font comprendre, enfin comme par hasard ce sont les deux clubs les plus riches d'Allemagne qui privilégient l'argent sur la santé des joueurs. C'est quand même étonnant quand même ce paradoxe. Mais si tu veux, à partir du moment où il y a une comment je pourrais dire ça, en gros, s'il y a un grand chef qui décide qu'on en convoie dans le mur, et ils iront tous dans le mur. Et ça, c'est l'organisation allemande. Et une fois que le chef a dit, on fait. Et donc lorsque la DFL dit, si la Ligue décide d'annuler le championnat, on annulera le championnat, même s'il y avait peut-être d'autres hypothèses. Ce qui est sûr, c'est, je te donne un exemple très simple, c'est que la presse allemande a été très très impressionnée par le public parisien en dehors du parc lors du match de Ligue des Champions, et par contre a très clairement dit qu'au niveau sanitaire, c'était quand même pas le truc à faire vraiment. Donc c'était il va falloir un jour qu'on revienne un petit peu sur les choses comme ça, tout en sachant encore que moi j'ai pas de boule de cristal, je sais pas trop ce qui va se passer. Et ce qui est sûr aussi, c'est qu'on va peut-être se rendre compte qu'il y a un pays, on parlait de pays centralisés, qui a beaucoup de structures médicales, les hôpitaux, etc., le service hospitalier qui est dévoué à ses clients et à ses victimes. Et on va se rendre compte peut-être que l'Allemagne, pays décentralisé, qui n'investisse pas dans les investissements publics, notamment, merci Madame Merkel et ceux qui sont passés avant elle, au poste de chancelière ou chancelier, il risque d'avoir beaucoup plus de casse en Allemagne. Et là, je sors évidemment du cadre du football. C'est tout ce que j'avais un petit message à envoyer.
Merci Polo.
C'est moi qui vous remercie.
Merci Polo. Tu pars pas en vacances, hein, tu restes parmi nous.
Je vais être très honnête avec toi. J'ai perdu un boulot. J'ai,
ah bon?
Voilà. J'ai plus le droit de donner des cours. Je suis confiné chez moi. Je parle avec moi-même.
Très bien. C'est avec nous aussi.
C'est beaucoup déjà. Hein,
et par l'intermédiaire de la fleur à la France entière.
Évidemment, je parle à la France entière. Évidemment.
Mais fais attention, ne te parle pas trop. Hein. Des fois, sur certains sujets, tu pourrais être fatigué.
je vais déjà essayer d'être d'accord avec moi-même, ce qui n'est pas évident. Et ensuite, on verra. Merci beaucoup, messieurs. Ciao, bonne soirée.
Salut. Le 32-16 est ouvert. Hein. Si vous souhaitez réagir, on reçoit beaucoup de messages ce soir. Tiens, Hussein, notre fidèle du.
Est-ce que tu crois que si je me parle plus le championnat turc, je peux me saouler?
Toi, très vite.
Certainement.
Tu ne pas en podcast. Le podcast ne fait pas 10 minutes.
Hussein nous dit « Il ne reste donc que le championnat turc, russe et ukrainien qui joue encore en Europe. » Sachez qu'en Turquie, c'est à huis clos. Hein. Mais bon, Turquie, il continue.
Ça continue,
il continue, les Turcs.
On n'a pas un after là-dessus, dis donc.
Bon, on peut.
Il y avait des supporters, en revanche, jeudi, encore Ligue Europa en Turquie.
Exactement, exactement. Ouais, bah, c'est vrai, ça fait partie des suggestions. Alors j'ai lancé le hashtag mon after.
Non, je rigolais, hein, sur la Turquie.
Bah, quoi, c'est intéressant, il se passe plein de trucs. Bah, franchement, ça m'intéresse. L'économie du championnat turc, comment ça fonctionne. Non, franchement, et les histoires de dingue. Quand tu nous racontais les after turcs, là, où ils font 5 minutes sur le jeu, 50 minutes sur l'arbitrage, franchement, je veux en savoir plus, moi.
Ah, appelle Hussein, c'est tout.
Donc je disais, on vient de lancer un hashtag, hashtag mon after. Donc pour envoyer vos propositions pour les jours qui viennent, les semaines qui viennent, parce qu'on est sur l'autre partie pour 3 semaines, un mois.
Il faut du lourd. Hein.
Non mais attends, bon, j'ai aucun souci, je me fais aucun souci, il y a tellement de dossiers qu'on n'a jamais voulu faire. D'ailleurs tiens, je peux déjà vous en annoncer un. Gros dossier sur l'AS Monaco à venir la semaine prochaine, avec Eric Huette.
J'ai l'impression que tu as annoncé sera le avec truc nous. Le plus énorme de la
Eric
Terre.
Huette, Eric Huette, c'est le spécialiste de l'AS Monaco, il sera dans l'after, et on pourra enfin faire ce fameux sujet, Monaco est-il toujours un club de foot ou une machine afrique?
On l'a déjà fait ça.
Ah mais là avec Eric Huette c'est pas pareil, parce que lui il a des infos, il va t'expliquer les arcanes, le contexte, tout ce que tu ne sais pas. Pas le passionné d'avance, Daniel.
Il est jaloux parce qu'il n'a pas les infos.
Ouais, c'est ça.
Non, c'est pas ça. Ça me fait penser que je dois lui filer un cadeau depuis au moins 6 mois, Eric. Un cadeau monégasque et ce sera le moment de lui donner.
Ben voilà, il sera avec nous lundi.
C'est plus le temps que j'oublie. Chaque fois que je le croise, j'oublie.
Julien Laurence est là. Julien, bonsoir.
Salut Gilbert, salut à tous.
Salut.
Salut Julien.
Alors, pareil, il faut que tu nous racontes la journée en Angleterre parce qu'il s'est passé 1000 choses entre hier soir où. Il y avait confirmation hier soir, assez sereine, de la suite de la Première Ligue. À moins de 10 heures plus tard, on arrête tout.
Tout à fait. Parce que rappelle-toi, dans l'after hier, juste avant que je quitte l'émission pour aller à la télévision, on a vu ce communiqué de la Première Ligue qui nous disait, en fait, en gros, on fait comme si de rien n'était. On continue le foot avec public. Tous les matchs seront joués en Première Ligue ce week-end. On inclut le derby de Liverpool le lundi qui pourrait donc décisif pour le titre, qui pourrait faire remporter le titre à Liverpool. Le Tottenham-Manchester United décisif aussi dans la course à la Ligue des Champions le dimanche après-midi. Tout ça, aucun problème. Et puis après, quelques minutes après mon départ, on apprend que Mikel Arteta est donc contaminé, a contracté le virus. Et là, ça change tout, puisque c'est la sonnette d'alarme, en fait. C'est vraiment à partir de là que tout a basculé. Et ça va de réunion en réunion, à la Première Ligue, à la Fédération Anglaise, entre les clubs, beaucoup d'appels entre présidents de clubs ou entre propriétaires de clubs et la Première Ligue commence à prendre des décisions. Donc d'abord le match Brighton-Arsenal a été le premier reporté donc de samedi après-midi, mais les autres devaient avoir lieu à ce moment-là avant que la décision la plus juste finalement ce matin arrive peu après midi, où la Première Ligue a décidé de suspendre tous les matchs jusqu'au 3 avril au minimum. Il pourrait le prolonger comme dans les autres championnats européens finalement. Ce qui est très intéressant dans cette réunion aussi, c'est qu'on a demandé au club s'il voulait qu'on prépare peut-être la suite de la saison ou s'il fallait définitivement arrêter la saison et annoncer, décréter cette saison blanche, un petit peu comme Jean-Michel Aulas vient de le faire pour la Ligue 1. Et deux clubs ont dit que ce serait bien que cette saison ne serve à rien.
Manchester et Tottenham.
T'en as un sur les deux.
Tottenham, non?
Ah oui, parce que José Mourinho s'est dit attends, je suis huitième.
Bah Mourinho, évidemment.
Eh oui, évidemment. Et l'autre c'est West Ham qui lutte contre la relégation, pour qui ce serait dramatique de descendre en deuxième division par rapport à déjà leur la masse salariale de cette équipe, de cet effectif, par rapport à leur stade, le stade olympique et tout ça. C'est les deux clubs qui, selon nos informations, auraient dit aux 18 autres non, ça sert à rien cette saison, autant qu'elle soit blanche et qu'on reparte l'année prochaine avec les mêmes clubs en Coupe d'Europe, un petit peu à la Jean-Michel Aulas. Ouais.
Donc,
il n'y a pas de frontière pour ces.
Il n'y a pas qu'en France, non. Ah
ouais. C'est
exactement.
Génial.
Il y a ceux que ça arrange plus que d'autres, hein, quand même.
Et mais alors ça fait polémique en Angleterre. Il y a des mecs qui disent, j'aurais mieux fait de se la fermer, cela, ou alors ça passe.
Alors ça fait plus sourire parce que. Un peu comme vous l'avez fait, c'est assez facile finalement de deviner qui voulait que ça ne compte pas, mais ils ont eu qu'une chance de gagner quoi qu'il arrive, parce qu'à la majorité de toute façon la Première Ligue ou les clubs de Première Ligue l'emporteront, et si la saison peut se terminer, elle se terminera comme dans les autres championnats, j'imagine, et comme pour les Coupes d'Europe. Donc à ce niveau-là, ils gagneront pas. Ça fait sourire les gens parce qu'effectivement José Mourinho, il est toujours là à l'affût de la moindre arnaque pour pouvoir aller dans son sens et sauver sa saison, par exemple, comme il aurait très bien pu le faire là si la saison était dégrétée blanche, quoi.
Bon, on a. Vous avez une question pour Julien?
Ouais, moi, Julien, salut, c'est Simon. Moi, je voulais te demander, est-ce que tu. J'ai vu passer cette info comme quoi le boss de la FA, la Greg Clark, aurait dit ce matin à la réunion avec les clubs qu'il y avait de fortes chances pour que la date de début avril, elle soit repoussée plusieurs fois et voir que la saison ne reprenne finalement pas. Est-ce qu'on parle de ça en Angleterre?
Ouais, ou... on parle de ça, c'est possible. On se dit que jusqu'à septembre, on pourrait ne pas avoir de football, voilà, par rapport à ce que selon les scientifiques, vu comment le virus pourrait se développer, ça pourrait effectivement être très compliqué. Alors ça, je pense que ils ont prévenu les clubs, ça pouvait être le pire scénario, en fait, si tu veux. En espérant que d'ici un mois, six semaines peut-être, on puisse essayer de retrouver, de réorganiser un calendrier plus ou moins viable, si tu veux, et qu'on arrive quand même à terminer la saison. C'est dans l'intérêt de tout le monde finalement, parce que comme on en a aussi déjà souvent parlé financièrement, notamment pour les clubs de deuxième, troisième et quatrième division, même si c'est des clubs professionnels ici en Angleterre, pour eux ce serait catastrophique. Il leur reste entre 5 et 6 matchs à domicile selon les clubs. Pour les petits clubs, tu perdrais quand même près de 300 000 euros qui pour eux, pour leur budget à eux, c'est énorme. Quoi. Et donc on réfléchit déjà au niveau de la Première Ligue à ce que les clubs de Première Ligue et la Première Ligue en elle-même fassent un fonds, si tu veux, pour les petits clubs, pour les plus petits clubs, les Port Vale, les Shrewsbury, les Grimsby, et qui eux, si vraiment étaient en danger limite de mettre la clé sous la porte, pourraient bénéficier de ce fonds-là pour pouvoir survivre à ces matchs où ce manque à gagner serait assez incroyable.
Alors tiens, dans ce marasme général, il y en a un qui veut parler de foot, c'est Aboudé, qui est supporter de Manchester United, et qui doit se dire, mince alors, c'est pile au moment où on devenait invaincu que tout ça s'arrête. Aboudé, bonsoir.
Bonsoir Gilbert, salut à tous.
Salut
Aboudé. Tout d'abord, merci d'être là. Franchement, je ne vous cache pas que vous êtes notre rayon de soleil du soir, là, parce qu'il n'y a plus de foot, je ne vous cache pas que moi je suis en semi-dépression.
C'est pour ça qu'on ne bouge pas nous, on reste voilà, là, on dort là.
C'est ça, pardon, je fais un petit digression.
Arrête de dire ça, parle-toi la poisse qu'on ne soit pas confiné. Je veux bien être là tous les soirs, mais pas dormir là.
Voilà, parce que même nous, à la fac, c'est un peu compliqué. Moi, je fais du droit, c'est un peu chaud là au niveau pour la suite, on ne sait pas trop ce que ça a donné.
Bah oui.
Voilà, donc moi, je voulais parler de Manchester United parce que ça fait un mois à peu près, depuis le match retour contre Chelsea, que je nous trouve assez séduisant. Bruno Fernandes, franchement, très bonne pioche. Et puis voilà, nous on jouait bien, on gagnait les matchs, Martial y marquait à tous les matchs quasiment, etc. Bon, là, c'est un plan de parenthèse, quoi. Donc, qu'est-ce que Julien pense de la nouvelle tactique qui est en place, de tout ça, quoi, finalement, parce que franchement, nous on est surpris, hein, de la saison, on s'annonçait plutôt morose. Et puis il y a eu un peu un renouveau un peu inattendu, quoi. Moi je vous cache pas que je m'attendais pas à grand chose depuis janvier, quoi. Donc
Julien, ton avis?
Alors tu as raison, ça fait 11 matchs maintenant, 8 victoires et 3 matchs nuls, toutes compétitions confondues, donc entre la Coupe d'Angleterre, l'Europa League et le championnat. La défaite à Burnley, contre Burnley à domicile, je pense que c'est vraiment celle qui a fait prendre conscience à Solskjaer, mais aussi aux joueurs, de la gravité de la situation à un moment, parce qu'à un moment on vous a vraiment vu. En temps de crise, c'était vraiment la crise, c'était limite, ouais. même pour la Ligue Europa, ce serait difficile de se qualifier. Et je pense que cette défaite à domicile contre Burnley, elle a vraiment fait prendre conscience à tout ce groupe et au club en entier et à Solskjaer aussi qu'il fallait changer quelque chose. Alors Bruno Fernandes, bien sûr.
Bah ouais, j'allais dire, bien sûr, le changement, il est là aussi, hein.
Ah ouais.
Bien sûr qu'il est là. Mais pas seulement, parce que défensivement, ils sont très très forts depuis cette défaite contre Burnley, notamment. Ou que ce soit une défense à 5 ou une défense à 4, ça marche plutôt bien avec Maguire qui est devenu capitaine, qui a pris ce brassard, mais pas simplement pris le brassard, qui a vraiment pris une autre dimension, qui s'est installé dans ce rôle, qui a un rôle très compliqué à Manchester United. Si tu penses à tous les anciens capitaines qu'il y a eu dans ce club, c'est pas facile. C'est assez impressionnant de récupérer ce brassard dans ce stade à Old Trafford, quand c'est toi qui rentres le premier, qui sort de ce tunnel au point de corner là. C'est vraiment impressionnant. Et je trouve que, qu'on soit un fan de Maguire, qu'on pense qu'il a coûté trop d'argent, etc., peut-être, mais la façon dont il a pris ce brassard, qu'il s'est approprié ce rôle et qu'il a grandi avec ce brassard, c'est assez impressionnant. Et depuis, défensivement, ils sont très solides. Offensivement, avec Bruno Fernandes, il a changé beaucoup de choses par son talent déjà, mais par son mouvement et tout ça. Et puis,
Oui,
tout à fait, il prend ses responsabilités.
Franchement, il prend ses responsabilités. Les coups francs, les pénaux, moi, c'est ce qui m'impressionne.
D'ailleurs, il a intégré le plan de ceux qui tirent les pénaux de façon bizarre.
Avec son petit saut de cabri.
Comme Jorginho.
Comme Jorginho, un peu, tout à fait. Mais tu sais, c'est plus facile pour lui.
Jamais aucun.
Voilà, et dans un style différent comme Neymar. Enfin, ceux qui ont une façon de tirer un peu particulière.
Je sais pas s'il le faisait déjà. Je pense pas qu'il.
Oui, si, il le faisait déjà.
Il a eu quelques matchs.
Parce qu'en fait, ça lui permet de gagner peut-être une demi-seconde où il voit le gardien.
Exactement.
En fait, c'est ça.
Exactement.
Je tirais pas les pénalties, donc je peux pas vous dire ce que ça change chez lui. Mais certainement, s'il se sent à l'aise comme ça, c'est comme Neymar qui attend vraiment au dernier moment.
Moi, je vais essayer de voir. Je vais demander à Jean-Louis de faire un essai. Je le fous au but. Je vais essayer.
Les gars, mais
Jean-Louis, il plonge pas.
Faut filmer. Quand tu fais ça, s'il te plaît.
Jean-Louis, il part toujours dernière limite. Tu l'auras pas, Jean-Louis.
Au pénal, il plonge.
Très fort sur les pénaux, Jean-Louis.
Mais qu'il soit très fort.
Très fort sur les pénaux. Combien de fois on est passé en coupe aux séances de pénaux,
Jean-Louis? Déjà, le temps qu'il descend
Daniel,
au sol, le match est fini.
Daniel, tu rigoles ou quoi? Match de l'after, c'est lui qui nous sauve le match au pénalty.
Et voilà.
C'est vrai.
Bon, enfin, bon, moi, je fais un 10 sur 10 contre lui.
Bon, enfin, c'est quand même un miracle.
Attends,
pour revenir sur ce que tu disais, Julien, Maguire, il a été adoubé par Roy Keane, qui a dit que ça pouvait devenir un grand joueur de Manchester United. C'est quand même pas tous les jours que ça lui arrive à notre ami Roy Keane de dire du bien de ses successeurs. Et Bruno Fernandez, là, c'est une question que je te pose. J'ai vu dans le Daily Mail un article comme quoi le vrai miracle de Bruno Fernandez, ce serait qu'il aurait donné envie ou convaincu Pogba qu'il y avait un avenir dans cette équipe de Manchester United et qu'il serait d'ores et déjà prêt à re-signer. Est-ce que tu as entendu parler de ça, toi?
Alors oui, j'ai vu cet article dans le Daily Mail. C'est pas les informations que j'ai, c'est que pour l'instant il n'y a pas eu de discussion ou en tout cas pas de volonté de la part de Mino Raiola ou de Paul Pogba d'aller chercher un nouveau contrat à Manchester United. N'oublions pas qu'il lui reste encore donc la fin de cette saison là, la saison prochaine à Pogba, mais aussi que le club et simplement le club sans l'accord de Pogba peut aussi lui déclencher une année supplémentaire après s'il le souhaite. Donc déjà financièrement en cas de transfert, ce serait complètement différent. United pourrait s'appuyer sur un contrat encore de 2 ans et demi et pas simplement d'un an et demi ou d'un an de 2 ans à la place d'un an à la fin de la saison si tu veux. Et c'est vrai que Pogba lui est très excité à l'idée de jouer avec Bruno Fernandez. Et juste pour rebondir sur les responsabilités de Bruno Fernandez, c'est aussi plus facile d'arriver dans un club comme ça et de prendre tes responsabilités quand il y a personne qui les prend. Il n'y avait pas de leader quand t'arrives, tu vois.
Ça, je sais pas si c'est si facile ce que t'es en train de dire, Julien. Je sais pas.
Au fond, qu'on conclue, les gars.
Mais c'est plus. Non, juste pour finir, alors je pense que c'est plus facile d'arriver dans une équipe qui n'a pas de leader et d'en devenir le leader que d'arriver dans une équipe qui a des, on va dire, 3 ou 4 leaders et d'essayer de te faire une place dans ce leadership-là, dans ce groupe de leadership.
Faire Griezmann.
Je sais pas.
On en parlera. Merci Julien.
Merci les gars.
Merci à Aboudé.
Moi, je lance un défi à
également.
Tour, hein. Le 9 sur 10 sur une série, une entrecôte en jeu.
Franchement, t'as perdu. Je te le dis, celui t'as perdu.
Bah, mets-toi dans le pari.
Je mets dans le pari, je mise sur Jean-Louis.
À 2 contre 1 l'entrecôte.
Ah, bon, à l'aise.
C'est parti.
On en parle à Jean-Louis
on met ça en route, ce sera filmé.
Deux choses importantes. Déjà, les propositions d'after de sujets tombent. Il y en a des drôles aussi, comme par exemple Tav qui nous dit
ce genre de défi-là.
Tav nous dit on pourrait faire un after spécial sécurité routière avec Jérôme Rotel et Mbaye Niang, par exemple. J'aime bien la.
Oui, parce que Milan Baros sera plus compliqué à toi.
J'aime bien l'idée.
Les meilleurs stages de récupération de points.
Voilà.
Où ils se trouvent.
Et là, pour être un peu plus sérieux, un tweet ce soir de Dimitri Payet.
Ah, énorme, j'adore. Ouais.
Qui lit sur les déclats d'Olas, donc il retweet une partie des déclats d'Olas et il dit mais il est sérieux celui-là, il a craqué, il faut prendre sa température vite, c'est quoi le classement actuel après 28 journées? Ah, d'accord, j'ai compris, bien tenté. Voilà ce que dit.
Ça veut dire que ça va faire un peu de bruit.
Voilà ce que dit Dimitri Payet qui envoie sur Jean-Michel Aulas. Allez, dans quelques instants, on est de retour avec l'Italie, avec l'Espagne et avec le quiz. 32-16 pour vous inscrire, à tout de suite.
RMC, 21h30, l'After Foot, Gilbert Bribois.
Avec Simon Dutin ce soir, avec Damien Perinel, avec Daniel Riolo, et notre Tour d'Europe continue. On va accueillir Fred Hermel et Simone Rovera. Fredo, bonsoir.
Hola chicos, salut les amis.
Simone, bonsoir.
Ciao, buonasera, bonsoir.
Les évolutions chez vous aujourd'hui, on va démarrer par toi, Simone. Alors, il y a des joueurs de plus en plus touchés par le coronavirus. Hein. Aujourd'hui, encore d'autres à la Sampdoria et à la Fiorentina.
Oui, il y a une nouvelle liste qui malheureusement s'ajoute. Il y a 4 joueurs en plus à la Sampdoria et 1 joueur à la Fiorentina, qui est Dusan Vlahovic. Donc ça a des conséquences un peu sur toutes les équipes. À partir d'aujourd'hui aussi, le Udinese a mis tous les joueurs, Udinese dernière équipe qui a joué face à la Fiorentina, tous les joueurs, on peut dire, dans une quarantaine. Donc voilà, les clubs ne s'entraînent plus. Ils sont tous à l'arrêt jusqu'au moins à lundi prochain. On attend de voir s'il y aura d'autres cas et qu'est-ce qui va se passer s'il y aura d'autres positifs. Et les foot, aujourd'hui, les seules choses qui concernent les foot, c'est les réunions qu'il y a à la Ligue de football pour imaginer qu'est-ce qui va se passer au retour à la normalité. Aujourd'hui, le ministre du Sport a parlé de la moitié d'avril, si tout se passe bien, pour reprendre un peu l'activité. En attendant de voir qu'est-ce qui va se passer avec l'UEFA et les autres compétitions, mais voilà la première date qui a été sortie dans cette point d'interrogation énorme qu'il y a en Italie, c'est la moitié d'avril, comme a dit le ministre Spadafora. Et pour le reste, il y a tout le monde de football qui cherche de se mobiliser pour recueillir des fonds, aider les hôpitaux, comme a fait Insigne, comme a fait la Rome, l'Inter, la Juve. Et ça, c'est le football qui bouge beaucoup pour le pays italien.
Oui, il y a beaucoup de clubs également qui ont mis en ligne des vidéos avec les gestes évidemment à adopter au quotidien. En Italie, ça s'est fait assez vite. Le PSG en a fait une aussi aujourd'hui d'ailleurs, avec Mbappé, Marquinhos. Voilà, ça fait partie notamment de toutes ces initiatives. Est-ce que Simone, il y a débat comme en France, lancé par Aulas, sur la suite.
Qu'est-ce qui se passe si ça s'arrête?
Voilà. Ou alors, pour l'instant, on n'en parle pas.
Non, on en parle. C'était sorti déjà dans le premier conseil fédéral de mardi.
Ah oui, les fameuses propositions. Ouais.
Voilà, il y avait des hypothèses, mais ça doit être discuté encore par un prochain conseil fédéral. Et après, c'est la Ligue qui va décider. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas une jurisprudence pour ça. L'idée, ce qui est sorti aujourd'hui dans une vidéoconférence, conseil de la Ligue italienne en vidéoconférence, la Ligue a fait un communiqué où il disait on veut terminer la saison, on veut essayer de terminer quand même la saison, et l'idée c'est de quand même ne pas faire des play-offs, de trouver vraiment une solution, et c'est pour ça que la Ligue apparemment, comme la Fédération italienne, aurait demandé encore plus les reports de Euro 2020 pour avoir les dates pour finir la saison.
Fred,
oui,
la journée chez toi, déjà t'es rentré déjà?
Ben oui, puisque comme je viens de passer 4 jours...
Limite, parce que bientôt, ce sera plus possible, je crois.
Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, là, on est dans une situation catastrophique. On est dans une situation qu'on qualifie ici à l'italienne, mon cher Simone.
Et qui s'est précipité, Fred, parce qu'au début...
Mais il s'est précipité à cause de l'incompétence beaucoup, du gouvernement espagnol, il faut le dire.
Non, mais voilà, c'est ça.
Le gouvernement central a fait n'importe quoi.
Pourquoi ?
C'est vrai qu'on se plaint beaucoup.
Parce que le gouvernement central a été totalement irresponsable. Il y a encore 3 semaines, je vais essayer de pas m'énerver, le directeur général de la santé disait « Mais non, en Espagne, il y aura un petit cas, il faut pas avoir été avec un côté un peu branleur, crâneur et tout.
Hey, » Au début, la ministre de la Santé française, qui était encore en poste à l'époque, avant de devenir candidate à la mairie de Paris... Mais
c'était largement avant. Largement
elle
avant,
aussi avait pas. Dit « En France,
oui,
il se passera rien. »
Mais ça, c'était il y a très longtemps. Mais enfin, là, je peux te dire que moi... Ouais,
tout le monde s'est foutu la gueule de ce qui s'est passé en Italie. Hein.
Quand j'ai écouté mon président hier, et quand j'entends le président du gouvernement espagnol, je peux vous dire, c'est pas la même division, quoi. Là, c'est pas la meilleure Liga du monde ici, ça je peux vous le dire. Alors, heureusement, Madrid, c'est terrible. Moi, par mes relations diplomatiques françaises, je peux vous dire que ce qui va arriver en Espagne la semaine prochaine, c'est terrible. On va faire exploser les 10 000 cas, dont la moitié à Madrid. Voilà, le maire de Madrid et la présidente de la région de Madrid font le boulot. Franchement, c'est bien, mais là, on est dans une ville fantôme. Moi, j'ai l'impression de vivre ce que Simone vit depuis plusieurs semaines. Et je suis là que depuis quelques heures. Voilà, dans les supermarchés. Là, tout, à partir de demain, tout sera fermé. Les bars, les restos, les commerces.
Ça s'est accéléré à une vitesse folle, en Espagne.
Parce qu'il n'y avait pas de précaution avant. Il suffisait simplement de regarder l'Italie. Mais ici, comme si ça
n'allait pas arriver. Tu te souviens, en plus, Fred, on en a parlé quand t'es venu sur le plateau de Champions Zone, puisque je t'ai même dit, je viens à Madrid le 26, là, pour les gros de la série de gros tournois de poker. Et tu m'as dit, ah ouais, d'accord, 48 heures après, même pas question qu'on vienne, tout était annulé, c'était fini.
Là maintenant, tout est fermé, seul reste ouvert les pharmacies, les supermarchés, les stations-service et les bureaux de tabac et les kiosques à journaux. Donc
voilà, c'est, on entre dans une période très très compliquée. Heureusement, sincèrement, la région madrilène et la ville de Madrid parlent de concert et y travaillent. On parle déjà, enfin, ils commencent déjà à travailler à la médicalisation de certains hôtels parce que les hôpitaux risquent de déborder. Donc voilà, moi je suis confiné chez moi. J'ai de la
et le gouvernement est critiqué par
ah,
la
oui,
population.
Ah oui, non, mais c'est catastrophique parce que ce qu'on a appris, c'est que la ministre de la Santé samedi a demandé au président du gouvernement de ne pas autoriser les manifestations féministes du 8 mars et qu'on l'a, elle s'est fait renvoyer dans ses 22. Je pense
qu'est-ce
que
qui, c'est qui le gouvernement en Espagne?
Alors c'est un gouvernement socialo-podemos.
Ah d'accord, c'est vrai.
Voilà.
Il y a eu un décret royal, non? Je dis une connerie.
Non, mais mais décret royal, ça ne veut rien dire. Podemos, hein. Ça ne veut rien dire puisque ça s'appelle un décret royal, mais le roi n'a aucun pouvoir.
Ok.
Le roi a zéro pouvoir en Espagne. C'est-à-dire que c'est le gouvernement. On appelle ça un décret royal parce que c'est une royauté, mais c'est le parlement et le gouvernement qui décide quoi là-dessus.
Il y avait vraiment une opposition entre la ligue espagnole et la fédération. Grosso modo,
oui, alors c'est-à-dire que oui, ça c'est vrai. Oui, parce que Tebas, le président de la Ligue, au départ, voulait simplement attendre les ordres du gouvernement et du ministère de la Santé, ouais. Qui au départ parlait de simplement d'un huis clos.
Alors que la même chose en Italie. Hein. Entre fédération et ligue, c'était la même chose. La ligue pensait plutôt aux affaires d'argent, voilà. Et à défendre les produits football. Voilà. Et la fédération, c'est la première qui a dit on arrête.
Et là, la fédé a. Voilà, de toute façon, là, il n'y a plus de vie, là, tout est fermé. Moi, je suis enfermé chez moi, alors je suis ravi de vous parler. Et on va beaucoup se parler ces prochains jours, ça va nous tenir compagnie. Mais sincèrement, je commence à comprendre, là, alors que j'ai atterri à 14h30, ce que Simonet, mon grand ami Simonet, est en train de vivre. Simplement, je peux vous assurer, voilà, parce que là on est au-delà du sport. Là, la France et l'Espagne, on n'est pas dans la même division. Je peux vous assurer qu'on a un grand président, on a un grand gouvernement par rapport à ce qu'il y a ici, sincèrement.
Merci, messieurs.
Voilà, alors, un petit mot, toujours pas de footballeur contaminé pour l'instant. On reste qu'un joueur de basket du Real, mais pour l'instant, mais ça va arriver, hein, c'est évident.
Merci les gars, bonne soirée.
Salut les amis.
Et à très vite dans l'after. Bon courage, deux, trois salut. Infos les gars avant Merci. Le quiz. Vous dire rapidement que aux États-Unis, le président de la Fed a démissionné. Vous savez, les histoires de l'égalité des salaires entre les joueuses et les joueurs, ils n'arrivent pas à s'en sortir, hein, les Américains. Ce serait pourtant assez simple à mettre en place. Hein. Je rappelle qu'aux États-Unis, les filles génèrent plus de business, enfin, l'équipe nationale, hein, je parle, féminine, génère plus de d'argent que l'équipe masculine.
Il me semble que c'est le maillot de l'équipe nationale le plus vendu.
Et pourtant, les filles gagnent beaucoup moins que les garçons.
Dans ce cas-là, c'est absolument une prise de position logique.
Et là, la Fédé a justifié ces derniers jours l'écart salarial par l'hostilité plus grande du public lors des matchs de foot masculin. Fallait quand même aller le chercher, cet argument-là.
Quoi, c'est plus dur de jouer contre les supporters.
Il dit, vous comprenez, les garçons, il y a quand même plus d'hostilité dans le stade, donc c'est normal qu'ils gagnent plus. N'importe quoi. Le président de la Fédé a du coup démissionné. Donc,
là, c'est un peu con, là.
Voilà.
Alors, la différence, c'est que c'est l'équipe nationale qui génère oui. du business. Donc, tu vas mettre une bonne rémunération aux 22 joueuses qui composent l'équipe nationale ou à tout le championnat.
Oui, mais il faut au moins qu'elles aient autant que les garçons qui représentent l'équipe nationale. C'est ça leur combat.
D'accord.
Et surtout, l'argument, en plus, il est affligeant parce qu'on ne progresse pas. C'est bien sexiste à souhait. C'est tout
comme il faut.
Oui, mais dans ce genre de combat, le truc, c'est qu'on ne devrait pas se soucier.
Même pas rentrer dans les explications.
En fait, on ne devrait pas se soucier des affaires de. C'est tout ce genre de combat, à partir du moment où on veut coller le sexe, la couleur, le machin, t'arrives dans des discriminations à l'envers. Ouais. On devrait juste regarder, tout simplement. Effectivement, c'est anormal si elles génèrent plus de blé, bah, qu'elles aient pas le blé qu'elles méritent par rapport à ce que gagnent les hommes. On devrait juste avoir un rapport économique. Vous générez du blé, c'est normal que vous touchez. Parce que imagine si en France, on vient te dire les joueurs de l'équipe de France doivent toucher autant que les mecs. Ah, c'est absurde. Si les joueuses de foot, de voir leur championnat, demandent une égalité salariale.
Ça dépend sur quel plan tu te places. Si tu te places absurde. Effectivement sur le plan de l'argent qu'elles génèrent, ça se justifie pas. Mais si tu te places sur un plan éthique et moral, tu peux dire bah, pourquoi pas.
Mais au nom de quoi?
Bah après, j'avais pas prévu qu'on fasse un débat là.
Faut déjà
savoir
dire
que les joueuses du PSG ou de Lyon, elle va toucher. Mais qui va leur donner le salaire?
Je te parle d'équipe nationale, moi. Je te parle pas de club.
D'équipe nationale.
C'est ça le débat.
En France, t'as pas de contrat professionnel chez les filles. Parce qu'on que des contrats fédéraux.
Non, mais il parlait d'équipe nationale. Donc, équipe nationale. que la Fédé décide. Ouais, mais le problème, c'est que la Fédé, elle donne pas réellement de l'argent aux mecs.
Tu vois,
c'est de la redistribution de sponsors, en fait.
Je sais pas. On n'a pas enquêté sur le sujet. Je pense pas qu'il y ait égalité de prime.
Non, mais le joueur, il est pas salarié de la Fédé. Non. Il a de la redistribution de primes.
C'est les primes, c'est ça.
Oui, mais ce que génère l'équipe de France de foot au niveau de ses contrats quand ils font une compétition, c'est x10 par rapport à ce que génèrent les nanas.
Encore deux petites histoires, rapidos.
Non, oui ou non.
On n'a pas le temps. Ronaldinho toujours en tôle au Paraguay. Il n'arrive pas à sortir de son histoire.
Il paraît qu'il y a des bastons pour le garder dans son équipe de foot dans la tôle. Prison. Il paraît que ça fout la merde dans la prison parce que les gars qui l'ont dans leur équipe veulent pas qu'il change de quartier dans la prison.
Et puis la nuit dernière, match de Copa Libertadores, derby de Porto Alegre entre le Grêmio et l'Internacional, baston général, 8 cartons rouges.
Ah merde.
Voilà, c'est comme ça les derbys au Brésil. Finalement, chez nous, c'est plutôt calme. Dans quelques instants, on est de retour avec le quiz.
RMC jusqu'à midi. L'After Foot. Gilbert Bribois.
Messieurs, dames, c'est l'heure du quiz. Jingle. Et puis le quiz à 23h40, bien sûr, en espérant que cette fois, ce ne soit pas truqué. Ce ne sera pas truqué, évidemment. Attention, on accueille Vincent et Adèle. Vincent, bonsoir.
Bonsoir, messieurs.
Vincent, je vais te laisser le choix entre l'équipe Riolo, l'équipe Dutin ou l'équipe Périnel.
Périnel.
Bien joué, Vince.
Très bien. Damien plus Vincent et Adèle, bonsoir.
Bonsoir. Alors, je tiens, si je gagne, à remporter des matchs pour des places pour le match PSG Lyon. Pardon, Juve Lyon, s'il vous plaît.
Ah bah là, ce sera pas possible, on les a pas. mais c'est bien tenté.
Le perdu avec en fait.
Adèle, tu choisis l'équipe Dutin ou l'équipe Riolo?
Riolo, bien sûr, comme d'habitude.
T'as raison, j'ai fait zéro, c'est le quiz que j'ai fait.
Oui, j'ai rappelé. Tu étais avec moi en plus, Damien.
À l'époque.
Ouais, j'étais en janvier, je crois.
Damien Périnel, 30% de réussite au quiz, hein, 3 victoires, 7 défaites. Simon Dutin, une participation, 0 victoire, donc on est sur du 0%. Voilà, on peut le dire, Daniel, lui, est au-dessus de vous, il est à 42. Hein, 42%, 21 victoires, 29 défaites à la fameuse race. Je ne donnerai pas le nom du mec qui est en tête de la race, ce serait indécent.
Ça varie, ça a beaucoup varié cette année. Hein.
C'est vrai, ça a beaucoup varié cette année. Tu as raison. On va démarrer par un petit.
Il y a 3 mois de juin.
On va démarrer par un petit kick-a-wedge ici. Parce que moi, j'aime bien le kick-a-wedge ici. Je vous rappelle le principe. Je donne les clubs où sont passés le joueur en question, dans l'ordre ou pas dans l'ordre. Il faut me donner la réponse. Attention, c'est parti. On va démarrer par un petit facile. Niort.
Lyon-Doula.
Joli, Daniel. Peggy, Lyon-Doula. Ça aurait pu être Abidipolé.
Ouais, mais c'était là quand même. Ouais,
franchement, c'était l'un ou l'autre.
Christophe Jallet, parce que Strasbourg.
C'était l'un ou l'autre.
Jallet, pas mal. Attention, je continue. Beauvais, Dijon,
Savidan,
Châteauroux, Boulogne,
Périnel,
Til.
Grégory Til.
Qui a dit Til?
Vincent.
C'est Vincent.
Merci.
Ça fait
Vincent.
Un point là, pour Damien là-dessus. Et Vincent. Grégory Til. Attention, si je vous dis Saragosse, Vélez, Sarsfield, Strasbourg. C'est Damien qui a été le plus rapide. José Luis Chilavert, bien joué. Attention. Sochaux, Guingamp, Mönchengladbach. Sochaux, Guingamp.
Bah, Thuram.
Thuram, Daniel. Bien joué. 2-2, Simon Dutin. 0, faut se réveiller, monsieur. Attention, je continue. Monaco, Parme, Juve, Barcelone.
Fabiola.
Thuram, Simon, bien joué. C'est pas le même Thuram, mais c'est Thuram quand même.
Oui, il a fait le père et le fils.
Eh oui. Un petit dernier pour la route. Clermont.
Périnel.
Guignon.
Alessandrini.
Joli. Romain Alessandrini.
Il y a du niveau là ce soir. Là. C'est encyclopédique.
Bravo. Attention. On va faire un petit kiki-crack. Qui craque, on parlait de la MLS tout à l'heure, vous allez me citer les uns après les autres.
Il lui a fait le quiz sur
tous les clubs.
Il lui a fait pour que je gagne pas le
du
quiz
tout.
Sur moi, le quiz, je l'ai pas créé l'autre jour. Hein. Moi, c'est pas moi qui l'ai fait l'autre jour, le quiz.
C'est pas moi non plus, c'est Geoffrey Charpy, notre producteur.
Arrête.
Vous allez me citer tous les clubs de MLS. En mode.
Arrête, il a gagné d'avance, c'est horrible. C'est horrible.
Bon, Damien va démarrer alors.
Allez, DC United.
DC United, c'est bon.
C'est quel club
Washington.
Inter Miami.
L'Inter Miami, c'est bon. Daniel.
Les Galaxies.
Et les Galaxies, c'est bon. Damien.
New York Red Bull.
New York Red Bull, c'est bon. Simon.
L'Impact Montréal.
L'Impact Montréal, c'est bon. Daniel.
Raptors de Toronto. Bah, allez, Toronto. L'Impact. Ah non. Le club de. Bah, Toronto.
Ah non, ça suffit pas. Il me faut. Il y a un truc qui va avec. Il faut le nom du club. Toronto Raptors, c'est plutôt du basket.
Alors, j'ai dit pas ça, j'ai dit New York City.
New York L'autre City de... FC, c'est voilà. Bon. Damien.
C'est quoi le club de Toronto, putain?
Je te dirai après.
Vas-y, on s'enchaîne. Bah,
dis-le maintenant, comme ça.
Revolution, New England Revolution.
New England Revolution, club de Boston. Oui, Simon.
Les Seattle Sounders.
Seattle Sounders, c'est bon. Daniel.
Je vais perdre ce quiz. Les Chicago Fire.
Chicago Fire, c'est bon. Damien.
Portland Timbers.
Les Timbers de Portland, c'est bon. Simon.
Je gagne pas ce quiz.
Vancouver, je me souviens plus. Non.
Véronique Sanson, Vancouver, obligatoire.
Simon 1, Simon 2, Simon 3. Rien. Daniel.
Il a été dit l'Impact de Montréal, c'est toi qui l'as dit tout à l'heure. Bah, les Toronto Raptors.
Le Toronto. Toronto Raptors, c'est pas bon. Damien.
On va dire, Whitecaps, Vancouver.
Les Whitecaps de Vancouver, victoire éclatante de Damien Péridel sur ce quiz, c'est énorme.
C'est Toronto FC.
Il reste 2-30.
C'est Toronto FC.
J'ai dit Toronto tout court, il a pas voulu. Est-ce que quand on dit Metz, on dit FC Metz ou Nantes FC? OK,
je te redirai Atlanta.
Pas grave, je sais très bien.
Atlanta champion en titre, je t'aurais dit Atlanta United.
OK, c'est bon.
Attention,
je sais que de toute façon
tu peux te refaire.
Arrête, allez.
Un Legend Game, le retour du Legend Game.
C'est ça, moi.
Le retour du Legend Game, messieurs dames.
Un match où il a joué, non? Boulogne de la Montée.
Boulogne-Nord.
Tu ne crois pas si bien dire. Un Legend Game, un match à huis clos, dont on a parlé cette semaine, 2010. Paris Saint-Germain, Boulogne-sur-Mer. Vous devez me citer tous les joueurs.
C'est bon, mais je ne le fais pas.
Qui ont participé.
Je ne le fais pas.
Qui ont participé à ce match. Je propose que Damien commence. Damien.
Qui ont participé.
Qui ont participé.
Damien Périnel.
Damien Périnel, c'est bon. Simon.
Jérôme Rotten.
Jérôme Rotten, c'est pas bon. Daniel.
Exerce ton droit Mevlut de retrait, Daniel.
Mevlut Erding, c'est pas bon. Il n'est pas rentré.
Il n'est pas rentré.
Sur le banc, il n'a pas joué.
Il y a Kezma, Noaro, Jallet, Traoré, Camara, Edel, Jérémy Clément, Makelele, Julie. Je sais pas si t'as pas.
T'as oublié Cessegnon.
Cessegnon.
Ouais. T'as les mecs de Boulogne, vas-y.
Attends, Boulogne, je crois que tu dois avoir Bédénic dans les buts. Le
ouais.
Pointe.
Ouais.
Bakary Soumaré qui commence. Ouais. David Belaïd.
Ouais.
Nico Rabu à la gauche.
Non, l'évêque.
Ah, Dorian l'évêque. Donc moi je rentre.
Bravo Damien, t'as gagné.
Tu dois avoir Ducatel.
Bravo. Ouais.
Bravo Gilbert.
Ouais.
Cuvillier.
Ouais.
Capot. Bah, effectivement.
Ouais. Agouazi.
Agouazi, Laurent.
Marc. Et ouais. Yatabaré. Victoire éclatante de Damien. Mais quel. Oh, c'est somptueux. Franchement, bravo. Damien, on termine cet after de façon éclatante.
Ça par
cette
la victoire. Vendée,
bon, je sais pas. Hein? Je vois pas où le problème.
C'est honteux.
Vincent et Adèle, je vous offre à tous les deux le ballon de la Ligue 1. Voilà. Standard. Parce que.
La dernière fois, avec Pat Piquen, il a la même chose. Il a pas pu répondre à
juste. Je suis d'une honnêteté et d'une intégrité totale.
C'est lui qui l'a fait. C'est
un ballon de la Ligue 1 pour chacun. Bravo Vincent. Bravo Adèle. Bon week-end, Daniel qui sera de retour dimanche soir.
Je
ne
fais plus un quiz. Alors là, vous l'aurez cherché. Non, mais je te jure, ici, les auditeurs, je ne fais plus jamais un quiz. Tu l'auras cherché. Je ne fais parce que moi, j'ai pas créé le quiz et moi, j'ai pas triché. Donc, je ne le ferai plus jamais.
Allez, demain, l'after sera là car l'after ne s'arrête pas. L'after sera là 21h demain soir avec Nicolas Jamin et toute l'équipe. Salut Simon, à très bientôt et bonne nuit à tous.
RMC. L'after foot.